fremde Kulturen ins Rübiland. Kompass. Jetzt auf Kanal K.
Hallo zusammen, Sie sind live in der Sendung Fenêtre sur l'Afrique, eine afrikanische Politik- und Kultur-Sendung über das Thema die Politik der Justizigkeit der Wahlen in frankophonen Afrika werden wir mit unserem Gast berichten. Ich bin Sylvain Amos am Mikrofon. Amis fidèles auditeurs de Radio Canal K, merci d'être à l'écoute de Fenêtre sur l'Afrique, une émission de débat politique et culturel africaine. Gisela Rossato à la tête de la dynamique équipe de Fenêtre sur l'Afrique. Programmation musicale Josué Maoli et Esteban Gagnon. Parfaite collaboration de Romain Koudoti. Romain, bonsoir.
Bonsoir, chers confrères.
Également, Prince Freddy qui vient de nous rejoindre dans Fenêtre sur l'Afrique depuis Milan. Prince Freddy, bonsoir.
Bonsoir, Sylvain Amos.
Fabi Kouassi depuis Lomé, elle sera aussi tout à l'heure dans quelques instants et pour en direct depuis Lomé pour nous faire le point sur la situation politique, culturelle, politique africaine du Togo. Vous écoutez la voix de Sylvain Amos dans l'émission Fenêtre sur l'Afrique. Eh bien, ce soir, nous avons deux invités qui vont débattre sur le thème la problématique de la transparence des élections en Afrique francophone. Nous aurons en ligne depuis la France, dans quelques instants, en premier lieu, M. Jean-Baptiste Placard, éditorialiste à RFI. M. Jean-Aimé Mouketou, docteur en géographie à l'Université Paris 7. Nous rejoindrons également dans un moment à l'autre. Il sera également en ligne depuis la France. Mesdames et messieurs, amis du continent noir, encore une fois, ravi de vous savoir nombreux à l'écoute de Radio Canal K. Et sans plus tarder, je vous propose tout de suite de suivre l'éditorial de Romain qui est déjà en ligne depuis Bonn.
L'Europe est indéfendable. Il paraît que c'est la constatation que se confie tout bas les stratèges américains. En soi, cela n'est pas grave. Le grave est que l'Europe est moralement, spirituellement indéfendable. Et aujourd'hui, il se trouve que ce ne sont pas seulement les masses européennes qui incriminent, mais que l'acte d'accusation est proféré sur le plan mondial par des dizaines et des dizaines de millions d'hommes qui, du fond de l'esclavage, s'érigent en juges. On peut tuer en Indochine, torturer à Madagascar, emprisonner en Afrique noire, sévir aux Antilles, refuser de reconnaître le résultat des urnes comme à Belarus. Les colonisés savent désormais qu'ils ont sur les colonialistes un avantage, la raison du plus fort et la domination sous une autre forme. Désormais, l'Afrique qui bouge et les Maghrébins voient clair. Ils savent, leur maître provisoire ment. Donc, que leur maître sont faibles et d'esprit malsain. Et puisque leurs maîtres sont faibles, ils savent aussi que pour des raisons diverses, économiques et sociales, ils ne peuvent plus se passer d'eux. Que cherchent en vérité les Européens, en l'occurrence la France mafieuse en Afrique? Voler, piller et sévir en maître. Le Quai d'Orsay dresse un bilan de 1 100 000 Français au Maroc. Pourquoi nous envahissent-ils tant sur notre continent? Et combien sont les Marocains en situation régulière en France? Ils se comptent par milliers en Côte d'Ivoire avec leurs entreprises et jouent au toubab sur notre territoire. Au nom de la soi-disant démocratie et du respect des droits de l'homme, ils font crépiter les armes en Côte d'Ivoire. Mais devant leur nez en Syrie, El Bachar les défie en tuant la population chaque seconde comme des mouches. Et que disent-ils? Niet, la Syrie n'a pas besoin de démocratie. D Désormais, les Africains savent que la France leur ment. Et ce n'est pas une mauvaise chose. C'est peut-être le début de la prise de conscience et de la sagesse.
Mon visage est usé de la fatigue, je suis essoufflé. J'ai vraiment soif de la paix. J'ai vraiment faim de la paix. Je voudrais être au sein de ma famille, me réjouir de la vie. Mais la guerre m'envahit, la tristesse m'envahit. La guerre a ravagé nos femmes et nos enfants, nos hommes ont péri. Il n'y a plus de vie pour nous, la vie n'a plus de sens. La guerre a ravagé nos femmes et nos enfants, nos hommes ont péri. Il n'y a plus de vie pour nous, la vie n'a plus de sens. Quand il y a la guerre, ah, la vie n'a plus de sens, il n'y a plus de vie pour nous, quand il y a la guerre. Arrêtez, mes chers, arrêtez la guerre. Négocions pour la paix, arrêtons la guerre. Je voudrais que tout le monde soit en paix. Arrêtez, mes chers, arrêtez la guerre. Bam bam, arrêtez la guerre. Négocions pour la paix, arrêtons la guerre. Je voudrais que tout le monde soit en paix. Arrêtez, mes chers, arrêtez la guerre. Africa, la misère nous envahit. Africa, la misère nous envahit. Arrêtons de racheter les âmes. Africa, la misère nous envahit. Africa, la misère nous envahit. Arrêtons de racheter les âmes. Toi qui fabriques tous ces âmes et toi qui rachètes tous ces âmes. Oh, vous êtes tous assassins. Bam bam, tous assassins. Toi qui fabriques tous ces âmes et toi qui rachètes tous ces âmes. Oh, vous êtes tous assassins. Bam bam, tous assassins. Africa, la misère nous envahit. Africa, la misère nous envahit. Arrêtons de racheter ces âmes. Africa, la misère nous envahit. Africa, la misère nous envahit. Arrêtons de racheter ces âmes. Toi qui fabriques tous ces âmes et toi qui rachètes tous ces âmes. Oh, vous êtes tous assassins. Oh, je...
Eh bien, vous êtes tous assassins, chantés par la grande diva de la chanson togolaise Ami Koko. Ami Koko que nous allons recevoir très prochainement dans nos prochaines émissions Fenêtre sur l'Afrique et bien sûr sur Radio Canal K. Nous allons tout de suite joindre depuis Lomé notre correspondante Fabi Kouassi qui nous fera le point sur la situation politique au Togo. Fabi Kouassi, bonsoir.
Bonsoir aux auditeurs de Fenêtre sur l'Afrique.
Vous suivez pour nous les manifestations hebdomadaires du FRAC, Front Républicain pour la tenance et le changement. Fabi, est-ce que la mobilisation et la détermination de la population est toujours d'actualité, Fabi?
La mobilisation, non. La détermination, pourquoi pas. En tout cas, très faible mobilisation pour le FRAC ce samedi. Deux raisons peuvent expliquer ce déplacement clairsemé du public, saison des plus obliges. A gratifié le pied de plusieurs groupes de ce matin, décourageant sans doute les abonnés des marches hebdomadaires. Second motif, la tournée de l'ANC de son président Jean-Pierre Farr qui continue, entame sa seconde phase. Mais affluence ou pas, le FRAC était dans les rues et en meeting après la minute de silence en mémoire des victimes du Lac Togo et l'exécution de l'hymne national. Place aux interventions. Robert Olympio ouvre le bal avec une allusion à la classe politique et continue de croire en la bonne foi de Faure Gnassingbé sans dialogue inclusif. Il a fustigé notamment ceux qui leur ont reproché de ne pas répondre à l'invitation de Faure, préférant lui envoyer un chapelet de préalable à satisfaire avant toute discussion. Robert Olympio, face au vote de la loi Bodionna, déglise sur les libertés de manifestation, demande à cette classe politique qu'il faille continuer à faire confiance à un pouvoir qui se comporte de la sorte, suisant de duplicité et de marchandage pour s'éterniser au pouvoir. Il appelait les Togolais à plus de mobilisation en temps de pluie comme en temps normal. Le frac, ce ne sont pas les leaders, mais vous, le peuple, quel que soit le face, ce pouvoir va partir, car ce que le peuple veut, Dieu le veut, a-t-il martelé. Jean Eclou de l'ANC lance un appel à la jeunesse pour une mobilisation soutenue contre cette loi pour un véritable changement. La traîtrise de certains, le changement de veste de certains individus ne doit pas freiner notre lutte pour la libération de ce peuple qui a tant souffert. Le leader du Parti des travailleurs Claude Amédandé, l'initiateur du slogan « Fort Nassimbé, fort des missions, fort des gages », l'ANC doit intégrer dans ses préalables au dialogue l'abrogation pure et simple de ce qui la loi de Donat d'Église. Il a fait remarquer que les députés qui font voter cette loi élite ne sont pas élus tout comme Fort Nassimbé, et ce vote doit sonner le processus de départ de Fort Nassimbé et compagnie du pouvoir. Pour ce faire, Claude appelle les Togolais contre les oppresseurs du peuple togolais dans une grande mobilisation. Terminons avec le secrétaire général de l'ADI, Alphonse Togo, pour sa part, qui remercie la presse pour le travail d'éclairage et invite les Togolais à soutenir le journal en procès le 14 juillet prochain au palais de justice.
Oui, et Fabi, justement, et contre vents et marées, la loi sur les manifestations publiques nommée loi Bodjona Degli, et que vous venez de dire, hein, et de le relever, a été finalement votée à l'Assemblée nationale togolaise. Fabi, quelles sont exactement les réactions dans la classe politique togolaise?
Oui, c'est la polémique. Hein. Faut dire que dans tout cas, l'ensemble de l'opposition est contre le vote de cette loi. L'écart soutient mort puisque la loi doit être déposée dans les questions du dialogue inclusif, le prochain dialogue inclusif qu'annonce Fort Nassimbé. L'ANC demande encore son retrait pur et simple, en tout cas à faire tout pour empêcher la promulgation de cette loi par le chef de l'État. ONU est également dans cette optique là que la loi elle est inopportune. Donc dans l'ensemble au niveau de la classe politique, cette loi ne passe pas. C'est seulement le RPP et son allié l'UFC qui ont voté cette loi, qui marque d'ailleurs la désapprobation des députés ANC car à la séance d'hier, qui ont boycotté donc la séance parlementaire qui a fait voter cette loi.
Oui, Fabi Kouassi, une dernière question. Le naufrage d'une barque a fait 36 morts sur le lac Togo. Le Premier ministre Gilbert Ngo a fait donc le déplacement sur les lieux pour assister les familles endeuillées. Quelle a été vraiment la cause de ce drame, Fabi Kouassi?
Oui, au total, 36 personnes, dont 20 mineurs et 2 bébés, ont péri dans ce drame sur le lac Togo suite à des rafales de vent qui ont fait chavirer la pirogue qui transportait ces jeunes résidents à Godankopé dans la région maritime. Ils font partie d'un groupe musical dénommé Gazo et conviés pour amener des funérailles dans le village et puis de l'autre côté du lac Togo. Donc, c'est de retour de cette prestation en cette période pluvieuse qu'ils ont été confrontés au mauvais temps qui a coûté la vie à plus de la moitié de ceux qui étaient dans cette embarcation, soit 47 personnes. Mais c'est l'amateurisme avec lequel les autorités togolaises ont géré cette catastrophe qui énerve plus les familles endeuillées. Le Premier ministre Gilbert Ngo, vous l'avez dit, a été à la tête d'une délégation qui a rendu visite aux familles des victimes et qui a promis que le gouvernement allait prendre des dispositions pour que des funérailles dignes de ceux dont soient organisées de fin. Mais comme les autorités togolaises savent si bien le faire, aucune consigne n'a été donnée, aucune disposition n'a été prise pour que les corps puissent être conservés en bonne et due forme. Le lendemain, c'est avec stupeur que les familles ont découvert l'état de putréfaction de ces corps et certains ont eu du mal à reconnaître leurs proches. Ainsi, dans le Togo de Fort, les vivants n'ont déjà pas grande importance à leurs yeux et les morts encore moins. C'est donc avec témoin que la presse a assisté à cette scène où les familles n'ont pas hésité à traiter de tous les noms les gouvernants togolais, mais surtout où elles auraient préféré avoir leurs proches s'occuper de leur conservation eux-mêmes et leur assurer des funérailles dignes et pouvoir leur rendre un dernier hommage en tout respect comme nos grands-parents et nos parents l'ont toujours fait. Le respect du vivant et d'une dépouille n'ont plus aucune importance sur la terre de nos aïeux si tu ne t'appelles pas Nassimbé ou si tu n'as pas fait partie ou si tu ne fais pas partie du parti tentaculaire qui régente le Togo depuis bientôt 50 ans.
Fabi Kouassi, merci d'avoir été en direct avec nous dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique depuis Lomé. La problématique de la transparence des élections en Afrique francophone. Accéder à l'indépendance dans les années 90, faut-il le rappeler, pas de haute lutte, la plupart des pays africains sous influence de la France ont de la peine à suivre le train de la démocratie et de la bonne gouvernance. En vérité, la transparence des élections en Afrique francophone est un grand boulet d'étranglement dans la gorge des Africains. le discours de la Bolle en 90, qui avait suscité beaucoup d'espoir en Afrique, s'est vite estompé par des coups de force, des assassinats et de l'impunité. Le drame, c'est que la France, qui a donné le ton du bout des lèvres, n'était pas sincère avec les Africains ou tout simplement, disons-le tout haut, avait choisi son camp en dépit de la volonté populaire et de la soi-disant du changement des colonisés. Que ce soit au Burkina Faso, au Togo, au Sénégal, en passant par le Cameroun ou le Tchad de Idriss Déby, la France a toujours joué un rôle flou dans les prises des décisions dans l'alternance de ces pays en imposant des marionnettes de véritables patins à la tête de ces pays, tirant ainsi maladroitement les ficelles en coulisses. Même s'il a lieu de reconnaître que dans certains pays africains, il y a des avancées notoires comme au Bénin et en Guinée, le plus dur reste à faire. Pour comprendre les grands enjeux de la non-transparence des élections en Afrique, c'est tout de suite dans Fenêtre sur l'Afrique avec notre premier invité, Jean-Baptiste Placard.
Être sur l'Afrique. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K.
Eh bien, notre invité Jean-Baptiste Placard est journaliste fondateur du magazine L'Autre Afrique. Il est aussi éditorialiste à Radio RFI. Il signe également une chronique dans le quotidien français La Croix et intervient ponctuellement pour commenter l'actualité africaine sur TV5 Monde. Il a été pendant 7 ans grand reporter et puis rédacteur en chef à Jeune Afrique, ensuite directeur de la rédaction de Jeune Afrique Économie pendant un peu plus de 6 ans, avant de créer en 1997 l'hebdomadaire L'Autre Afrique qui a cessé de paraître en 2003. Journaliste formé à l'École supérieure internationale de journalisme de l'Université de Yaoundé au Cameroun, puis à l'Université de Paris 2 et à l'Université de Montréal au Canada, Jean-Baptiste Placard est également diplômé de l'Institut français de presse et des sciences de la communication. Jean-Baptiste Placard a débuté sa carrière évidemment en 1978 à l'Agence togolaise de presse et je pense qu'il est déjà en ligne. Nous allons tenter de le joindre tout de suite. Monsieur Jean-Baptiste Placard, bonsoir. Merci beaucoup de nous accompagner dans Fenêtre sur l'Afrique. Vous êtes journaliste éditorialiste à Radio RFI, je viens de le dire tantôt. Comme l'annoncé le thème de l'émission de ce soir, la problématique de la transparence des élections en Afrique francophone. Évidemment, Monsieur Jean-Baptiste Placard, les élections, notamment présidentielles en Afrique francophone, posent beaucoup de problèmes de transparence dans le vertige des unes. Selon vous, comment expliquer cette situation de contestation des résultats?
Écoutez, je pense que, évidemment, vous pensez à un certain nombre de pays, mais il y a aussi des pays où les élections se passent sans qu'il y ait des contestations, tout simplement parce que la transparence, comme vous le dites, est un facteur important. Quand les élections se déroulent de manière claire, les opposants, ou enfin les perdants, disons, qu'ils soient opposants ou du pouvoir, savent accepter les résultats. On a vu par le passé le président Diouf accepter sa défaite au Sénégal. On a vu le président Soglo, président sortant, accepter sa défaite au Bénin, parce que le scrutin était clair, il n'y avait pas l'ombre de contestation. Plus récemment, on a vu au Cap-Vert l'opposition accepter sa défaite avant même que la commission électorale n'annonce les résultats. Donc, c'est là où les dispositions ne sont pas claires, honnêtes, que l'on observe des contestations. Et souvent, malheureusement, c'est parce que ceux qui organisent les élections ou ceux qui sont au pouvoir plus généralement essayent de tricher avec le choix du peuple.
Oui, et Jean-Baptiste Placard, en effet, la contestation des résultats sortis des urnes débouche souvent sur des violences inouïes causant des pertes en vies humaines, comme ce fut le cas par exemple au Togo en 2005, en Guinée en 2010 et tout récemment en Côte d'Ivoire. Valent-elles encore ces élections dont on connaît souvent le vainqueur avant même la proclamation des résultats?
On ne connaît pas le vainqueur avant la proclamation des résultats. Il arrive, pas seulement dans les pays que vous citez, il s'est arrivé aussi au Kenya, que en général, des gens qui sont déjà au pouvoir cherchent, j'allais dire, à forcer le destin en brusquant les choses et en prêtant serment précipitamment. C'est ce qui est arrivé avec Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. C'est aussi ce qui est arrivé avec Mwai Kibaki au Kenya. Mais quand, disons, il y a une vigilance et de la société civile et de l'opposition et d'un certain nombre d'observateurs, parfois, ces tentatives-là n'aboutissent pas. C'est ce qu'on vient de voir en Côte d'Ivoire.
Oui, monsieur Jean-Baptiste Placard, avant de revenir encore une fois sur la crise ivoirienne, nous avons déjà en ligne depuis Bonn en Allemagne un collaborateur qui désirerait également vous soumettre quelques questions. Romain?
Oui, bonsoir, cher confrère Placard.
Bonsoir.
Et évidemment, dans la suite logique de votre développement, nous avons remarqué qu'au Togo, la brillante élection de M. Faure Gnassingbé, validée par des observateurs internationaux, l'Union européenne et la France, n'ont pas empêché une frange de l'opposition qui manifeste depuis plus d'un an. Et peut-on dire que la démocratie bat du plomb dans les ailes, et notamment dans la plupart des pays francophones, car on a le même constat au Gabon, en Guinée-Conakry et un peu plus partout.
Alors, vous avez parlé de brillante élection. Je ne suis pas sûr, enfin, à moins que vous fassiez de l'humour. La réalité, c'est que la transparence de ces élections togolaises dont vous parlez n'était pas évidente. Et l'opposition qui a contesté et qui continue de confesser semble avoir de bonnes raisons de contester. Vous savez, ce qui se passe lors de toutes les élections aujourd'hui en Afrique, c'est que les candidats, avant même la proclamation des résultats, les candidats savent ce qu'il en est concrètement, parce que chaque candidat est représenté dans les bureaux de vote par des gens qui repartent avec un exemplaire des procès-verbaux. Alors, ce qui se passe en général, pardon, quand il y a ce genre de contestation, si tout le monde est de bonne foi, on devrait tout simplement confronter les procès-verbaux. Quand on annonce les résultats d'une circonscription électorale séparément, quand on annonce les résultats au fur et à mesure que ça arrive, en général, il n'y a pas ce genre de problème. C'est ce qui se passe aux États-Unis, par exemple. C'est-à-dire, comté par comté, au fur et à mesure que les résultats tombent, ils apparaissent à l'écran, tout le monde peut voir. Donc chacun additionne, et au bout du compte, on voit qui a gagné et qui n'a pas gagné. Mais quand les résultats sont... On attend d'avoir l'ensemble des résultats, ceux qui sont au pouvoir en général, qu'est-ce qu'ils font? Ils décident que, bon, ou bien on supprime telle ou telle chose, ou bien ils proclament tout simplement une victoire qui ne correspond à rien. Mais quand il y a contestation, c'est ce que moi, en tout cas ce que j'ai suggéré aux Béninois la dernière fois, mettez les procès-verbaux sur la table, que tout le monde puisse voir. Et aujourd'hui, on a des technologies suffisamment abouties pour que, j'allais dire bureau de vote par bureau de vote, on puisse avoir les procès-verbaux et comparer et juger par nous-mêmes et non pas se contenter d'une partie ou de l'autre qui proclame avoir gagné. Quand on a gagné les élections, il faut le prouver.
Oui, et monsieur Jean-Baptiste Placard, si nous voulons toujours rester encore une fois au Togo, il semblerait que la loi sur les manifestations sur la voie publique a été votée à l'Assemblée nationale. Quelle analyse personnelle faites-vous sur cette loi et que l'opposition togolaise qualifie de loi liberticide?
D'abord, je dois avouer que ce n'est pas un dossier que j'ai suivi particulièrement. J'ai suivi ce qui en a été dit sur les médias. J'observe que théoriquement, la démocratie est en marche au Togo depuis une vingtaine d'années maintenant. Et si on éprouve aujourd'hui le besoin de voter une loi pour réglementer les manifestations, cela veut dire qu'il y a vraiment un déficit de quelque chose de fondamental, parce que les manifestations sont une forme de liberté d'expression, et c'est, j'allais dire, la moins violente, parce qu'ailleurs les gens prennent les armes. Donc quand pour des opinions politiques, les gens veulent exprimer ce qu'ils pensent, j'allais dire dans la rue, cela fait partie théoriquement des libertés garanties par une constitution. Mais si c'est aujourd'hui qu'on éprouve le besoin de formaliser tout cela, cela veut dire que il y a eu sinon un déni de démocratie en la matière depuis longtemps, ou bien que l'on veut verrouiller d'une manière ou d'une autre, parce que j'ai entendu parler de la liberté garantie a priori et puis des exceptions. Voilà, l'essentiel c'est que les exceptions ne deviennent pas la règle, et c'est toujours gênant un pouvoir en place qui décide de comment et quand les autres doivent manifester. Parce que, en général, ce qui se passe, c'est que quand les partisans de ce pouvoir veulent manifester, il n'y a jamais d'entrave. Et quand les opposants veulent manifester, on trouve toutes sortes d'arguties juridiques ou administratives pour les empêcher. Je ne sais pas si vous avez observé ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, quand les partisans de Ouattara voulait descendre sur la télévision et tout cela, on leur a tiré dessus, on les a abreuvés de gaz lacrymogène régulièrement, et quand Blé Goudé appelait ses jeunes patriotes à manifester en plein cœur du plateau à Abidjan, et il y avait personne pour les en empêcher. Ça veut dire donc que on règle les manifestations de manière discriminée et discriminatoire, en tout cas pour que ceux qui soutiennent le pouvoir, qui a les armes, qui a le gaz lacrymogène et qui a les balles réelles ou les balles blanches, que ce pouvoir puisse laisser ses partisans se défouler sur la place publique pour le soutenir, et quand les opposants veulent manifester, ça devient quelque chose de plus compliqué. Et ce n'est pas normal, et ce n'est pas une preuve de démocratie. Et maintenant, une loi est votée, j'ai constaté que l'opposition ne s'est pas associée à au vote de cette loi. Ça veut dire donc qu'il y a quelque chose qui ne va pas fondamentalement, et que donc cela ne règle pas les problèmes, cela ne fait que reporter les problèmes, et on les rencontrera tôt ou tard, parce que voilà, c'est une loi commode pour ceux qui sont au pouvoir, mais pas forcément pour le pays, pour la démocratie.
Oui, et Jean-Baptiste Placard et revenir encore une fois sur le thème de l'émission, la problématique de la transparence des élections en Afrique. Peut-on alors parler de transparence si, par exemple, les kits qui ont servi d'élections frauduleuses au Togo, par exemple, servent encore en RDC et vice-versa, Jean-Baptiste Placard?
Vous savez, je c'est pas le lieu de le dire, des éléments qui me laissent un peu perplexe quand on parle de, j'allais dire, d'échange de matériel électoral entre le Togo et la RDC. Le Togo et la RDC, aujourd'hui, c'est Joseph Faure Gnassingbé d'un côté et Joseph Kabila de l'autre, mais hier c'était Gnassingbé Yadema et Mobutu de l'autre. Ce n'est pas clair, ce n'est pas convaincant, ce n'est pas, c'est-à-dire que l'un et l'autre de ces pays ne sont pas des références, comment dit-on, démocratiques en Afrique. Sur lesquels il faille s'appuyer pour partager ni les expériences ni le matériel. Et je crois que il y a beaucoup de suspicions quand les choses commencent à passer de part et d'autre entre ces deux pays.
Oui, et j'espère que Romain est toujours en ligne depuis Bonn en Allemagne. Romain?
Oui, évidemment, Monsieur Placard, m'inscrivant dans la logique de la Côte d'Ivoire, je remarque qu'un président est chassé par une rébellion avec l'appui de la France. Quelle analyse faites-vous?
Alors, je pense que on fausse le problème de la Côte d'Ivoire en le ramenant systématiquement au rapport de la France avec ses anciennes colonies ou pays sous tutelle comme le Cameroun, le Togo. La réalité en Côte d'Ivoire, c'est d'abord qu'il y a eu des élections et que quelqu'un a gagné les élections et quelqu'un d'autre les a perdues. Et il faut que en Afrique, on apprenne à accepter que celui qui a gagné les élections gouverne et que celui qui a perdu les élections regagne l'opposition pour s'opposer et participer à son niveau à la construction de la démocratie. Ce qui s'est passé, la France a été effectivement impliquée dans ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Mais au-delà de la France, les Nations Unies se sont impliquées, le Japon s'est impliqué, l'Union Européenne s'est impliquée, les États-Unis donc se sont impliqués, et le président Gbagbo, en son temps, avait lui-même demandé toutes ces implications-là pour être sûr que les choses ne lui soit pas défavorable. Et puis, il y a eu les élections. Alors, d'abord, le financement que la communauté internationale, qu'on a beaucoup attaqué ces derniers mois, le financement que la communauté internationale a apporté à la Côte d'Ivoire depuis 8 ans, et le financement qu'elle a apporté pour organiser ces élections, si on mettait cet argent au Togo, je vous dis que pendant 20 ans, 25 ans, on paierait les études de toute la jeunesse togolaise, on paierait la santé de gratuitement, donc la santé de tout le monde dans ce pays pendant 25 ans. Ça veut dire que vous êtes quand même allé chercher les autres pour financer des choses qui ailleurs peuvent relever de votre souveraineté. Vous ne pouvez pas aller demander aux autres de venir mettre autant d'argent chez vous, de s'impliquer dans vos affaires, j'allais dire d'assumer à votre place matériellement, financièrement, certaines responsabilités. Et puis, quand il s'agit du résultat de ce pourquoi vous avez, frapper à leur poche, quand il s'agit du résultat, vous dites ils n'ont pas à s'en mêler. Si vous ne voulez pas que les autres se mêlent de vos élections, vous n'allez pas chercher leur argent, vous n'allez pas chercher leur soutien. Ça, c'est une chose. Elle est fondamentale. C'est le point de départ. Maintenant, compte tenu des accords dont on parlait justement, Laurent Gbagbo, en convoquant le second tour de l'élection présidentielle qui devait l'opposer à Alassane Ouattara, dans les attendus donc de son décret de convocation du corps électoral, a dit, vu la Constitution, vu telle et telle loi, vu la certification du premier tour par le représentant du secrétaire général des Nations Unies. Cela fait partie des attendus, des éléments sur lesquels Laurent Gbagbo s'est appuyé pour convoquer le corps électoral au second tour. Ça veut dire donc qu'il a accepté l'arbitrage de ces gens au premier tour. Et puis subitement, on annonce les résultats, il voit que ça ne lui est pas favorable, et il dit non, c'est mon conseil constitutionnel qui est qualifié, et c'est pas à ces gens-là de venir se mêler de telle ou telle chose. Je pense qu'il faut que les gens soient honnêtes avec eux-mêmes, honnêtes avec leur peuple, et qu'ils n'essaient pas de jouer, quand ça les arrange, sur des considérations de souveraineté internationale, de résistance aux colonisateurs, à l'extérieur, ainsi de suite. Et puis quand ça les arrange, ils s'appuient sur ces colonisateurs, sur l'extérieur pour se maintenir, parce qu'on a peut-être oublié qu'en 2002, quand Laurent Gbagbo était menacé par la rébellion, l'intervention de la France, à un moment donné, lui a sauvé la mise, sinon il serait parti depuis 2002. On est dans un mélange de ce genre de choses et une manipulation, c'est-à-dire qu'on est en permanence en train de jouer parce que l'enjeu de cette histoire, c'est de garder le pouvoir. Est-ce que vous avez pu imaginer là tout ce qu'on a découvert comme armes en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire ce que Laurent Gbagbo a pu acquérir comme armes alors qu'il était sous embargo, son pays était sous embargo, ce qu'on a découvert là dans les derniers jours, est-ce qu'on a pu imaginer que ce pays, ayant tous les problèmes qu'il a, il ait quand même trouvé de l'argent pour s'équiper de la sorte, tout simplement parce qu'il fallait garder le pouvoir?
Oui, Jean-Baptiste Placard, Romain est toujours en ligne. Romain?
Oui, et pensez-vous, M. Placard, que l'arrestation de M. Laurent Gbagbo peut apporter la paix en Côte d'Ivoire et remettre la démocratie sur les rails?
Ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas parce que le problème se situe ailleurs et ce pays a été considérablement abîmé. Je ne dis pas que Ouattara est au-dessus de tout soupçon. Il faudra que dans le cadre de la justice qui doit être rendue dans ce pays, dans le cadre de la commission Vérité, Dialogue et Réconciliation qu'il compte mettre en place, il faudra que son rôle exact, le rôle de ceux qui l'ont soutenu et par rapport à la rébellion, soit clarifié. Parce que cette rébellion-là, elle explique aussi en partie un certain nombre de choses qui se sont passées. Vous avez entendu Laurent Gbagbo durant même le débat, alors qu'on croyait qu'ils avaient fait la paix, qu'ils s'embrassaient follement. Vous avez entendu Laurent Gbagbo rappeler sans cesse que c'est Ouattara qui a amené la guerre dans le pays, et ainsi de suite. Il faudra donc clarifier ces choses et clarifier quel soutien ils ont pu avoir de l'extérieur, parce que quand on va chercher militairement des soutiens à l'extérieur pour venir résoudre les problèmes politiques dans son pays, cela équivaut d'une manière ou d'une autre à solliciter des mercenaires. Et on a découvert que Laurent Gbagbo en a pris, mais si on reste dans la ont eu recours à des mercenaires. Et quand vous faites venir des mercenaires dans votre pays, vous hypothéquez l'avenir politique de votre pays durablement. Il y a un exemple qui est, j'allais dire, encore sous nos yeux, c'est les Comores avec Bob Denard. C'est-à-dire que ce pays, depuis que des politiciens sont allés chercher un mercenaire pour les aider à prendre le pouvoir dans ce pays, régulièrement, parce que les mercenaires reviennent, leurs enfants reviennent, enfin ceux qu'ils ont formés reviennent, ainsi de suite. Donc je pense que la Côte d'Ivoire a connu trop de violence pour penser que le seul fait d'avoir arrêté Laurent Gbagbo va régler les problèmes. Déjà, il y avait du grand banditisme à Abidjan à une époque, et toutes les armes qui ont circulé et qui circulent ou qui sont cachées aujourd'hui serviront, sinon dans des guerres futures, en tout cas dans d'une instabilité profonde. Et je crois que ce pays ne s'en sortira que si vraiment Alassane Ouattara, un, sait faire la place qu'il faut à tous les citoyens, y compris des gens qui peuvent considérer que qui sont les victimes de la chute de Laurent Gbagbo. Je ne parle pas de des gens qui ont pu commettre des crimes, mais il y a, disons les choses telles qu'elles sont, il y a certains groupes ethniques qui ont estimé qu'avec Laurent Gbagbo, eux aussi avaient enfin accès au pouvoir, et ces gens-là considèrent donc qu'ils ont tout perdu. Il ne faut pas qu'ils aient tout perdu dans la réalité, il faut que la Côte d'Ivoire survive. Et c'est important donc de ne pas se contenter de remercier, de gratifier ses partisans et de faire la place qu'il faut à chaque Ivoirien. Mais même cela, ça ne suffira pas. C'est-à-dire qu'il faut assainir ce pays et les 5 ans qui viennent seront plus, un chantier monumental et difficile, pénible pour Alassane Ouattara qu'une partie de plaisir.
Effectivement, M. Jean-Baptiste Plaka, le temps est contre nous. Une dernière question. La révolution maghrébine a commencé en Tunisie, en passant par l'Égypte, a prouvé effectivement que les manifestations populaires peuvent renverser un pouvoir. Mais en Afrique subsaharienne, malgré une volonté manifeste des populations, cette révolution traîne à se réaliser. Quelles sont les raisons, selon vous, M. Jean-Baptiste Plaka?
D'abord, il faut intégrer le fait que chaque pays est un cas particulier. Vous avez vu ce qui s'est passé en Tunisie, c'est pas exactement de la même façon que cela s'est passé en Égypte. Et vous voyez quelle résistance on observe aujourd'hui par rapport à la Libye. Je ne vais pas au Yémen, à Bahreïn, qui sont hors d'Afrique, mais chaque pays est un cas particulier et il faut que les Africains apprennent à régler les problèmes de leur pays par rapport à leur réalité et non se mettre en position de copier ce qui a pu réussir ailleurs en pensant que on peut plaquer tout sur tout et partout. Ça a commencé d'ailleurs avec les conférences nationales. Le Bénin a réussi sa conférence nationale et tout le monde a voulu faire pareil. Et tout le monde a pensé que ce qui a marché au Bénin et pouvait les Béninois, bon gré mal gré, sont encore en démocratie depuis la conférence nationale de 1989 parce que ils ont trouvé une solution, une façon de gérer leur crise à eux et de gérer leurs problèmes à eux. Et ceux qui ont copié ont connu des fortunes moins heureuses, entre guillemets. Et ce qu'il faut retenir, par contre, et qui est essentiel des révolutions, comme vous dites, en tout cas des changements radicaux qui se produisent dans un certain nombre de pays en Afrique du Nord, il n'y a pas que le Maghreb, il y a le Machrek, l'Égypte et plutôt du Machrek, en Afrique du Nord d'une manière générale, il y a un élément que tout le monde peut en tirer par rapport à la réalité de nombre de pays au sud du Sahara, c'est que ce ne sont pas les partis politiques, ce ne sont pas les opposants qui ont conduit ces mouvements qui ont réussi. Ça veut dire que il y a une forme ou une autre de désabusement de la population par rapport aux partis politiques. Quand vous voyez des opposants qui sont opposants aujourd'hui, qui sont au gouvernement dans 6 mois et qui reviennent dans l'opposition ensuite parce que ils n'ont pas eu tout ce qu'ils espéraient au gouvernement, ainsi de suite. Ces gens-là ne peuvent plus mobiliser les gens. Vous prenez le cas d'un pays comme le Togo, c'est-à-dire que ceux qui restent des opposants, j'allais dire purs, entre guillemets, et qui sont des gens qui se battent pour leurs convictions sans céder à l'appel de la mangeoire, hein, sans aller à la soupe, ils sont de moins en moins nombreux et peut-être même pratiquement réduits à leur plus simple expression. Donc ceux-là ne peuvent pas demander demain à la jeunesse du pays de descendre dans la rue pour manifester contre le pouvoir, parce que cette jeunesse sait maintenant que, suivant leurs intérêts personnels, ces leaders, à un moment ou à un autre, vont se retrouver avec le pouvoir. Si la société, la jeunesse, la société civile décide qu'elle ne veut plus d'un pouvoir, ce pouvoir s'en ira. Et ça, on l'observera dans d'autres pays africains. Mais il faut savoir que ce qui arrive au Maghreb, les Africains au sud du Sahara en ont eu la chance justement à l'époque des conférences nationales. Ils n'en ont rien fait de concret, à quelques exceptions près. Demain, les pays qui s'en sortiront seront ceux qui sauront tirer le meilleur parti, entre guillemets, de soulèvement qui serait, à mon avis, moins à l'initiative des partis politiques que de la population, que d'une jeunesse qui ne sent pas qu'on lui laisse une chance d'avoir un quelconque avenir.
Jean-Baptiste Placard, merci.
Vous écoutez Fenêtre sur l'Afrique avec le soutien du CMDT, Conseil mondial de la diaspora togolaise.
Eh bien, notre deuxième invité qui n'est autre que M. Jean-Aimé Mouketou est pour débattre du thème de ce soir, la problématique de la transparence des élections en Afrique francophone. J'espère que M. Jean-Aimé Mouketou est déjà en ligne depuis France. M. Jean-Aimé Mouketou, bonsoir.
Monsieur Sylvain Amos. Merci
beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes en direct depuis la France. Vous êtes docteur en géographie à l'Université Paris 7, professeur certifié à la Nouvelle-Écosse au Canada. Vous êtes également écrivain. Votre dernier livre s'intitule « Politique institutionnelle, organisation des territoires productifs ». Alors, monsieur Jean-Aimé Mouketou, vous avez certainement suivi sur le www.canalca.ch l'interaction de Jean-Baptiste Placard, l'éditeur de Radio France Internationale. Et bien sûr, le thème de ce soir, je viens de le dire, c'est la problématique de la transparence des élections en Afrique francophone. Et monsieur Jean-Aimé Mouketou, le verrouillage du pouvoir dans beaucoup de pays africains, et notamment au Gabon, votre pays, fait en sorte qu'on se pose des questions sur la sincérité des élections présidentielles. Étant donné la pression au pouvoir en Afrique, est-ce que les élections servent à quelque chose à part le décorum républicain, monsieur Jean-Aimé Mouketou?
D'abord, je voudrais vous remercier pour l'invitation et dire d'emblée que tous les 3/4 des États de l'Afrique francophone ne sont pas des États démocratiques. Parce que la démocratie, si monsieur Sylvain Amos, la démocratie, tout le monde le sait, que la démocratie traditionnellement, elle est définie comme tout simplement un régime politique dans lequel les citoyens, c'est-à-dire les citoyens togolais, les citoyens gabonais, les citoyens ivoiriens, les citoyens congolais, les citoyens camerounais, etc., 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 exercent leur souveraineté et disposent du pouvoir. Et qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que nous déplorons même que plusieurs millénaires après l'invention de la démocratie dans la Grèce antique, nous assistons à quoi? Au balbutiement, notamment dans les pays que je viens de citer. Donc nos États organisent, je veux dire quand je parle des États, les anciennes colonies françaises avec la complicité. Je ne veux pas aller plus loin, comme après avoir écouté M. Jean-Baptiste Placa, tergiversé, avec la complicité de l'élite politique française qui ne veut pas que la démocratie s'enracine dans ces anciennes puissances coloniales. Aujourd'hui, nous avons donc des dictateurs, nous avons des monarchies qui sont en train de s'enraciner au Togo, des monarchies qui sont en train de s'enraciner au Gabon, une monarchie qui est en train de s'enraciner aussi en République démocratique du Congo. Donc, M. Amos, nos États ne sont pas démocratiques. Nous sommes en train d'assister au dans ce que je peux qualifier des parodies, si vous voulez, donc d'élections. Voilà ce que je peux dire par rapport à votre propos.
Oui, jamais Mouketou, restez toujours en ligne avec nous. Nous avons notre collaborateur depuis l'Italie à Milan, et Prince Freddy. Rebonsoir, Prince Freddy.
Bonsoir, Sylvain Lamos. Bonsoir, Jean-Aimé Mouketou.
Bonsoir, monsieur.
Oui, je viens de vous écouter, vous avez été vraiment clair. Mais la question que je m'en vais vous poser est celle-ci. Est-ce que, après tout ce constat, nous n'avons plus rien à faire, nous devons croiser les bras, ou qu'est-ce que l'Afrique peut faire pour sortir de ce joug colonial?
Alors, premièrement, je pense que les Africains, il faut que nous, les Africains, nous prenions des responsabilités. Après avoir écouté M. Jean-Baptiste Placa, qui est, vous avez bien précisé, qui est journaliste à RFI. Alors, il faut aussi préciser aux auditeurs. Vous voyez, quand on parle de la démocratie qui ne veut pas s'enraciner dans nos États, quels sont les responsables d'abord? Ce ne sont pas les peuples africains, ce ne sont pas les Togolais, ce ne sont pas les Gabonais, ce ne sont pas les Ivoiriens, ce ne sont pas les Congolais. Ce sont, si vous voulez, ceux qui ne veulent pas que cette démocratie s'enracine dans nos États. En commençant par les médias occidentaux, dont RFI. Là, vous avez reçu, c'est une bonne occasion, un journaliste de RFI. Prenons le cas, il a parlé de la Côte d'Ivoire. Mais monsieur, comment voulez-vous entendre un journaliste de RFI, que moi je qualifie des griots, qui ne veulent pas que la démocratie s'enracine dans notre pays, dans nos pays, si vous voulez. Donc, voyez, prenez le cas de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il vient de le confirmer, monsieur Jean-Baptiste Placa. Il vient de le confirmer en disant qu'il y a eu des élections qui ont été organisées, des élections transparentes et qui ont été supervisées par une société civile et que M. Laurent Gbagbo a refusé de se plier par rapport aux résultats. Mais c'est de n'importe quoi. Malheureusement, c'est ce que nous avons assisté depuis le mois de décembre jusqu'à maintenant, jusqu'à l'intervention de l'armée france-africaine. Vous voyez? Donc vous avez des médias occidentaux, à l'instar de RFI, France 24 et les autres chaînes françaises qui, le plus souvent, quand il s'agit de leurs valets, c'est-à-dire il faut être clair, quand il s'agit de la famille Yadema, ses fils qui sont en train de bafouer la démocratie au Togo, ces médias français sont derrière pour les soutenir. Quand il s'agit du docteur Alassane Ouattara qui vient avec une armée, des armées étrangères, à cause d'une simple élection, qui vient avec des mercenaires, qui vient avec des prisonniers qui ont été libérés dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest, et qui vont envahir un État souverain. Et un État souverain, nous savons qu'au Togo, par exemple, c'est un État souverain. L'élection n'a pas été transparente. La France a validé l'élection au Togo. Tout récemment, le dictateur Déby, Idriss Déby du Tchad, a été élu avec plus de 80%, tout en sachant qu'il n'a pas été élu par le peuple tchadien. Qu'a dit la France? Donc la France, quand je parle de la France, il ne s'agit pas du peuple français, l'élite politique mafieuse
France-Afrique.
Monsieur Mouketou, restez toujours en ligne. Prince Fédi, vous avez une dernière question. Le temps est contre nous, Prince.
Oui, je m'en vais lui poser directement une question concernant son Gabon. C'est-à-dire que Ali Bongo Ondimba veut continuer par consolider son pouvoir, chose normale, mais par ses dictats. Exemple, les prochaines législatives, selon les indiscrétions, seront repoussées à l'année prochaine. Alors, qu'est-ce que lui, en tant que Gabonais, allait faire pour empêcher Ali Bongo de consolider son pouvoir illégalement?
Jamais Mouketou.
Déjà, par rapport au Gabon, il faut dire que M. Ali Bongo, il n'a pas été élu par le peuple gabonais. Le report des élections législatives, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, hein. C'est-à-dire du manque du respect de la démocratie. Donc le peuple gabonais, vous savez, ce peuple ne cesse de se mobiliser. C'est comme le peuple togolais qui se mobilise. Mais le problème, c'est que dans nos États, nous avons aussi ce qu'on appelle la pseudo-opposition qui existe au Togo, qui existe au Gabon, qui accompagne les régimes. Donc pour le cas du Gabon, le peuple est toujours prêt à aller voter massivement pour cette pseudo-opposition qui, après les élections, n'applique pas, ne prend pas ses responsabilités. Donc c'est ça le véritable problème. Donc pour cette élection qui a été reportée, moi je pense que c'est ce que nous assistons. Hein. Vous allez voir que l'élection est reportée. Aujourd'hui, il y a des lois qui ont été modifiées. Nous avons une hyper-présidence qui est au Gabon et c'est le président qui décide de tout. C'est une monarchie qui est en train de s'enraciner. Donc il fait ce qu'il veut et il est soutenu par la France, l'élite politique française. Que voulez-vous que le peuple fasse? Le peuple fait son devoir. Je pense qu'aujourd'hui, pour nos États, il faut mettre en place des oppositions responsables, que ce soit au Togo ou au Gabon.
Oui, monsieur Jamé Mouketou, rapidement, une dernière question. Bientôt les législatives en décembre 2012 au Gabon, avec ce système biométrique, est-ce qu'on peut faire confiance à la biométrie, soutenue notamment par la société civile gabonaise?
On ne peut pas parler de biométrie dans un État, quand vous voyez les moyens de communication ne sont pas fiables au Gabon. On ne peut pas parler de biométrie, quand nous savons que même il y a eu, vous savez, hein, au niveau des lois, le Gabon est fort pour ça. Si vous vérifiez les différents processus électoraux qui ont été organisés au Gabon, il y a des textes qui ont été mis en place pour qu'il n'y ait pas de tricherie, pour que les résultats ne soient pas truqués. Mais c'est un problème de manque de volonté. Au Gabon, vous pouvez amener toutes les méthodes pour organiser, si vous voulez donc une élection au Gabon. Le scénario est le suivant. Vous votez aujourd'hui. Demain, on met l'armée dans la rue et on va proclamer le contraire des résultats qui sont sortis des urnes. Voilà le problème au Gabon. Donc, tant qu'il n'y aura pas cette bonne volonté des hommes politiques, de ceux qui sont au pouvoir, il n'y aura jamais d'élection transparente. Vous pouvez amener n'importe... Moi, je vous donne un rendez-vous. Vous allez voir, que ce soit dans un an ou deux ans, vous allez voir, au sortir des élections législatives, il n'y aura pas d'élection transparente au Gabon, monsieur Sylvain Amos.
Merci beaucoup. Malheureusement, le temps est contre monsieur Jean-Aimé Mouketou. Je rappelle que vous êtes docteur en géographie à l'Université Paris 7, professeur certifié à la Nouvelle-Écosse au Canada. Vous êtes également écrivain. Votre dernier livre s'intitule « Politique institutionnelle et organisation des territoires productifs ». Encore une fois, merci et on vous recontactera d'ici peu pour d'autres émissions. Merci et merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Eh bien, Fenêtre sur l'Afrique, stop et fin. Collaboration, Prince Freddy qui était en direct depuis Milan, depuis Allemagne, Bono, Romé Koudodi, Esteban Gagnon, Josué Maoli, Gisela Rossato à la supervision. Au micro, appelez-moi Sylvain Amos.